Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche, votre nouvelle chronique d'information. Elle vous est proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Vous souhaitez acheter un logement sur plan, qu'il s'agisse d'un programme en cours de construction ou pas encore sorti de terre. Vous allez donc conclure avec le promoteur une VEFA. C'est l'acronyme de vente en l'état futur d'achèvement. Pour éviter les mauvaises surprises, vérifiez bien les clauses de votre contrat. De la réservation du bien jusqu'à sa livraison, chaque opération doit répondre à des dispositions spécifiques. Avant de vous lancer, il faut examiner plusieurs points clés. On va les passer en revue et ainsi déjouer les pièges grâce à nos deux experts, Thierry Moalic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône, et Audrey Fitoussi, juriste spécialisée en droit immobilier à la DIL. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thierry, quel type d'acquisitions sont visées ici ?
Il peut s'agir d'un appartement situé dans un immeuble collectif ou d'une maison vendue avec le terrain. Quoi qu'il en soit, cela repose sur un principe. Le vendeur s'engage à livrer un bien achevé conforme aux plans et notices descriptives dans un délai déterminé. L'acquéreur verse le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux et n'intervient pas dans le processus de construction qui relève de la responsabilité du vendeur.
Les contrats de vente visant à réaliser ces opérations sont régis par des dispositions spécifiques et impératives. On parle de secteur protégé.
Oui, il s'agit principalement de la vente en l'état futur d'achèvement, qui est une vente d'immeubles à construire. Les contrats ne doivent pas être confondus avec ceux par lesquels le propriétaire d'un terrain fait réaliser des travaux en vue de l'édification de son logement. Je pense notamment aux contrats d'entreprise ou aux contrats de construction de maisons individuelles, le CCMI. Le bénéficiaire n'est plus dans ce cas acquéreur, mais maître de l'ouvrage.
Audrey, quelles sont les précautions, les vérifications que vous conseillez de faire avant de signer un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ?
Alors d'abord, je dirais qu'il ne faut pas se laisser influencer par la publicité. Quand on achète un logement sur plan, le candidat acquéreur doit le plus souvent se positionner sur la base d'une description après avoir visité éventuellement un logement témoin. Il faut savoir que les documents publicitaires n'ont aucune valeur contractuelle. Il faut donc être attentif aux descriptifs annexés au contrat de réservation. Puisqu'il ne pourra pas visiter le logement car il n'est pas construit, l'acquéreur peut se rendre sur place pour juger de la situation du programme immobilier. Il est également conseillé de s'informer sur l'évolution du quartier auprès de la mairie ou encore de se renseigner sur les équipements, les écoles et les transports existants.
Quel autre conseil recommanderiez-vous ?
Alors, je pense qu'il est important de comparer les programmes, les prix et les prestations auprès de plusieurs promoteurs. Dans le cadre d'une VEFA, le logement pourra se situer en copropriété ou dans un lotissement. Le futur acquéreur devra se renseigner auprès du vendeur ou du notaire sur le montant des charges qui lui incomberont. Il ne faut surtout pas les négliger dans son budget, d'autant plus qu'il peut y avoir un écart entre les charges prévisionnelles et les charges réelles.
Est-ce que le vendeur doit fournir des garanties à l'acquéreur, comme on a pu le voir précédemment dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ?
Oui, dans le cadre d'une vente en VEFA, le futur acquéreur doit choisir un professionnel justifiant d'une assurance, garantissant son activité générale et sa responsabilité en cas de malfaçon. Il devra également justifier d'une garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire une caution d'un organisme extérieur, un établissement de crédit, d'assurance ou un organisme de caution qui garantira l'achèvement des travaux à l'acquéreur.
Donc, une fois que ces vérifications sont faites par l'acquéreur, l'étape suivante, c'est la signature d'un contrat de réservation.
Absolument. Le candidat acquéreur, qu'on appelle aussi réservataire, signe un contrat de réservation, généralement sous sein privé, c'est-à-dire signé de lui et du vendeur. Le promoteur est également appelé le réservant. Les parties peuvent éventuellement être assistées par leur notaire. Le contrat de réservation engage le promoteur, si le programme est commencé, à réserver un logement au réservataire. Il détermine aussi les conditions dans lesquelles se fera la vente.
Audrey, le contenu du contrat de réservation est-il réglementé ?
Oui, absolument. Il faut bien prendre le temps d'examiner son contenu dans le détail. Il doit contenir au minimum les informations suivantes. D'abord, la description détaillée du logement. Il s'agit de la surface habitable, la description des matériaux, la situation à l'intérieur de l'immeuble ou du lotissement, la liste des équipements collectifs et une note technique sommaire. Le contrat de réservation doit bien sûr préciser le prix de vente l'attente du logement et les éventuelles conditions de révision. Vous avez aussi la date à laquelle le contrat définitif de vente sera conclu, le délai d'exécution des travaux, les conditions de renonciation à l'acquisition et de restitution du dépôt de garantie prévu par la loi, et enfin la possibilité de recourir à un médiateur.
À la signature du contrat de réservation, le vendeur peut demander un dépôt de garantie.
Oui, tout à fait. Son montant est limité à 5% du prix de vente si le contrat définitif est signé dans un délai d'un an et 2% s'il est signé dans un délai de 2 ans. Au-delà de 2 ans, aucun dépôt de garantie ne peut être légalement demandé. Ce dépôt de garantie est versé sur un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur dans une banque ou chez un notaire. Et attention, avant la signature du contrat de vente définitif, aucune autre somme ne doit être versée au vendeur.
Là aussi, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation.
Oui, depuis 2015, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours contre 7 auparavant. Concrètement, le contrat signé doit être envoyé à l'acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen qui présente évidemment des garanties équivalentes. À compter du lendemain de la première présentation de cette lettre, il dispose d'un délai de 10 jours pour se rétracter. Par lettre recommandée avec avis de réception, l'acquéreur pourra dans ce cas récupérer son dépôt de garantie.
Alors si toutes les conditions sont réunies, le contrat de vente est signé cette fois-ci devant notaire par acte authentique.
Oui, il faut bien examiner le contrat de vente et s'assurer qu'il contienne les clauses prévues par la loi. Vous avez une description détaillée du logement et sa situation exacte dans l'immeuble, le délai de livraison et des pénalités en cas de retard de livraison, le prix total à payer et les conditions éventuelles de révision du prix, la condition suspensive de l'obtention des prêts sollicités par l'acquéreur, les garanties d'achèvement des travaux et ou de remboursement. Et enfin, l'échelonnement des paiements d'après l'avancement des travaux.
À cela s'ajoutent des annexes au contrat.
Oui, pour une parfaite information, la loi prévoit en annexe au contrat différents documents, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division si le logement est en copropriété. Vous avez le cahier des charges et le règlement de lotissement si le logement est situé au sein d'un lotissement et s'ils existent. L'attestation de l'assurance dommage-ouvrage qui est souscrite par le vendeur à l'ouverture du chantier. Et enfin, un plan coté et la notice technique descriptive du logement ainsi que le plan de l'ensemble immobilier.
Dernière question, Thierry, dans le cadre d'une VEFA, le paiement est échelonné en fonction de l'avancement des travaux.
C'est tout à fait vrai, les versements ne doivent pas dépasser 35% du prix total à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement des travaux, le solde de 5% est versé à la livraison, sauf bien sûr si l'acquéreur émet des réserves portant sur des défauts de conformité. Un conseil également pour nos auditeurs, c'est qu'avant d'ordonner les paiements, l'acquéreur doit s'assurer que les travaux correspondant aux appels de fonds sont effectivement réalisés et que le montant demandé correspond à l'étape visée dans l'appel de fonds.
Merci à vous deux pour ces informations précieuses. Nous voilà mieux renseignés sur la vente en l'état futur d'achèvement. Nous reviendrons sur le sujet dans d'autres épisodes en évoquant la livraison du logement ou encore les garanties après la réception pour que vous soyez au fait et serein tout au long de votre achat. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez contacter les conseillers juristes de la DIL tous les matins au 04 96 11 12 00 ou consulter le site internet de la DIL, je rappelle l'adresse www.adil13.org.
Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?